raconte-moi une histoire.
Gentes dames, oiseaux, je vous salue bien bas, c'est Doé qui vous raconte depuis plusieurs semaines, ça va durer encore quelques temps, les aventures du roi Arthur, et aujourd'hui, eh bien, ce sera l'épisode de Guenièvre, le bel amour. Alors, le monde était vaste et dame oiseau comme dame oiselle rêvaient du grand amour. Sur ce point, malgré la fin des temps aventureux, les jeunes gens n'ont guère changé. Guenièvre, princesse de Carmélide, désirait plus que tout connaître le bel amour. Mais qu'était-ce donc que ce bel amour? Pour une dame, il s'agit du sieur capable de ravir son cœur et de l'aimer jusqu'à la mort. Mais comment le reconnaître? Plus d'une fois, le regard de tel garçon l'avait troublé, l'allure de tel autre l'avait charmé. Comment ne point se tromper? Aussi demanda-t-elle conseil à sa mère, Célie. « Ma fille, cet homme est rare comme la nuit en plein jour. D'ailleurs, c'est ainsi qu'il se révèle. Le soleil plane haut dans le ciel, mais tout sur la terre te paraît sombre. Seul l'élu de ton cœur resplendit, comme si tous les rayons de lumière ne frappaient que lui. La vision, dit-on, ne dure que le temps d'un souffle, mais elle prouve de manière indubitable que tu viens de croiser le chemin de ton bel amour. Dit-on ? S'étonna Guenièvre, mère, le bel amour vous est donc inconnu ? Ne te méprends pas, j'aime mon époux. Léodagan, souvent une princesse doit accepter un mariage où la raison prime les sentiments. Je te souhaite de rencontrer le bel amour et je souhaite plus encore qu'il soit un chevalier à la tête d'un riche domaine afin que ton père consente à votre union. Sinon, je crains que les intérêts de la Carmélide me passent avant ton bonheur. » Guenièvre tenait sa réponse, mais aussi un motif d'inquiétude pour son avenir. De plus, le royaume de Léodagan connaissait la guerre depuis plusieurs années et jamais elle ne quittait par sécurité le château paternel. Des ennemis déferlaient toujours plus nombreux par-delà les mers et l'on redoutait que leur prochain assaut vienne à bout des défenses. On racontait aussi que le fils du terre Pendragon était monté sur le trône. En tant que suzerain, il aurait dû porter secours à son vassal, mais le jeune Arthur luttait alors contre Lot. Comment aurait-il pu se battre sur deux fronts à la fois ? C'est en tout cas ce que se disait ici, car la nouvelle de sa victoire n'était pas parvenue jusqu'au château. Et alors même que Léodagan ruminait ses craintes, on annonça l'arrivée des renforts inespérés. Il s'agissait d'Arthur et de ses hommes. Ils n'avaient pas pris le temps du repos après leur combat sur les seigneurs rebelles que déjà, ils venaient prêter secours à la Carmélide. Le jeune roi portait encore sa vêture d'écuyer et ne possédait toujours pas d'armure de chevalier. Aussi, il ordonna que nul ne révèle son identité et donna le commandement à Bande Bénoïc, le plus âgé de ses vassaux. Le vieux roi accueillit au pied d'un chêne ses alliés inattendus. Les chevaliers se présentèrent en se tenant la main en signe de fraternité. Ban prit la parole pour annoncer qu'Arthur les envoyait secourir la Carmélide, mais qu'il était resté auprès de la table ronde pour superviser les travaux de sa nouvelle capitale, Camelot. Nul ne se doutait dans la cour de Léodagan que l'écuyer au milieu de tous ses hommes en armure n'était autre que le successeur du terre, Pendragon. Pas même Guenièvre, pourtant, elle n'avait Dieu que pour lui. « Soyez remercié, déclara le maître des lieux. Gloire au roi Arthur, grâce à qui la victoire devient possible. Ma fille va passer parmi vous avec une coupe, buvez en signe d'amitié. » Guenièvre présenta donc au chevalier un calice d'argent, empli de vin. Elle débuta par Bande Bénoïc, car il avait le commandement et acheva par le moins titré un simple écuyer. Cependant, elle demeura longuement devant ce novice. Leurs regards se croisèrent et le temps sembla s'arrêter. Il faisait plein jour, mais tout s'obscurcit. La princesse aurait juré à cet instant se tenir seule avec le jeune homme et non au milieu d'une troupe de guerriers. Le garçon étincelait, sa chevelure était d'or et sa peau d'argent. Dans un frisson, il porta ses lèvres à la coupe. Quand il eut fini de boire, le jour et le monde reparurent autour d'eux. Thank you. Le trouble des deux jouvenceaux était grand, bien entendu. Arthur ressentait le même élan pour Guenièvre, il se félicitait de s'être présenté ici incognito, car il désirait l'amour pour lui-même et non pour son titre. Il se promit de ne révéler son identité qu'au moment où il serait certain qu'elle partageait ses sentiments. Quant à la princesse, elle n'avait aucun doute. Ce jeune inconnu était son bel amour, celui dont on ne croise le chemin qu'une fois dans sa vie. Pour son malheur, il était écuyer, et même s'il se voyait adoubé, il ne demeurerait qu'un sans-terre. Bande de Bénoïc l'avait en effet pas même présenté à son père. Il n'aurait pourtant pas manqué de le faire si le garçon pouvait se prévaloir d'hériter un jour d'un domaine d'importance. Jamais le roi de Carmélite n'accepterait que sa fille épouse un chevalier de rien. Le premier jour, les espions de Léodagan annoncèrent la venue d'une lourde troupe depuis la côte. Le deuxième jour, des fumerolles sinistres s'élevèrent derrière les collines. L'ennemi campait aux portes du château. Le troisième jour, le combat eut enfin lieu. Toutes les demoiselles se pressaient sur le rempart du donjon pour assister à la mêlée. Chacune tremblait pour son champion. Mais Guenièvre ne dit point que le sien était le plus humble de tous. Il était le seul sans protection, toujours vêtu d'une simple tunique. Il ne montrait cependant aucune peur et quand on lança l'assaut, il chargea en première ligne. Son adversaire direct n'était rien moins que le plus colossal de leurs ennemis, le seigneur de Frôle. Il dépassait tous les hommes sur le champ de bataille de plusieurs têtes et ses épaules formaient une masse digne d'une encolure de taureau. Il possédait également la réputation d'être le plus redoutable guerrier de son temps. Arthur ne scia pas devant cette montagne. Il avait pourtant l'air d'un garçonnet à ses côtés. Malgré tout, il éprona tant sa monture et tint si fermement sa lance que celle-ci brisa le bouclier adverse, fendit l'armure et traversa le torse de l'ennemi pour ressortir par son dos. Ce fut le coup le plus formidable de la bataille, et peut-être bien le plus formidable jamais porté. Le seigneur de Frôle ne succomba pas. Là où n'importe qui aurait perdu la vie dans l'instant, il retira la pointe qui lui pourfendait le corps d'une main, tira de l'autre son épée. Ce n'était pas une arme commune, elle se nommait Marmiadoise et avait appartenu au demi-dieu Hercule. Arthur déjà se saisissait d'Excalibur. Le choc entre les deux lames légendaires fut terrible. Il dura tout le jour. Alors que la bataille faisait rage autour d'eux, jamais Guenièvre ne quitta du regard son bel amour. Elle ne frémit pas un instant, persuadée qu'il ne pouvait que vaincre. À peine s'autorisa-t-elle un soupir de soulagement quand son champion secret vint enfin à bout du colosse. Le soleil descendait alors bas dans le ciel. Ce haut fait mit en déroute les ennemis. Voyant le plus fort d'entre eux terrassé, ils s'en retournèrent pour disparaître sur la mer et dans la nuit. La princesse aida à panser les blessures des guerriers, mais elle passa plus de temps avec le héros du jour qu'avec quiconque. Avec soin, elle nettoya les plaies de l'écuyer et recousit les entailles. Le jeune homme ne broncha pas tandis que l'aiguille pénétrait ses chairs. Cette douleur, au contraire, lui parut une caresse, car la main qui les infligeait semblait à ses yeux douce entre toutes. Ils étaient troublés aussi, échangèrent-ils peu de paroles. Pourtant, aucun des deux ne doutait plus des sentiments de l'autre, tant leur silence embarrassé valait toutes les déclarations. L'heure du banquet arriva. Guenièvre rejoignit la table de son père. Arthur, celle des chevaliers sans titre, Bonne de Bénoïc, avait bien remarqué ce qui se jouait entre ces deux-là. Il avait vu autant de batailles que de jeunes gens tomber amoureux. Dans un sourire, il demanda au cours du repas à Léodagan : « Seigneur, À présent, la Carmélite ne craint plus la guerre. Sans doute allez-vous vous inquiéter de l'avenir de votre fille. Elle est en âge de se marier. Quelle qualité préféreriez-vous, chez votre futur gendre? La richesse ou la bravoure? Le vieux roi se trouva gêné. Tous savaient qu'il aimait l'or plus que tout, mais ils ne pouvaient l'admettre devant une assemblée de chevaliers. La bravoure, certainement, concéda-t-il du bout des lèvres. Le courage et la force vous semblent donc supérieurs au titre et au rang, renchérit Ban. Si fait, puisque je viens de vous le dire, s'énerva Léo Dagan. Je préfère pour ma fille un homme sans bien, mais sans peur, plutôt qu'un couard, fût-il baron, duc ou même roi. Chacun dans l'assistance riait sous cap, car tous savaient que le seigneur de Carmélide espérait avant tout pour Guenièvre un prince doté de bonnes terres plutôt que d'une bonne épée. Seul le plus jeune, celui vêtu d'une tunique d'écuyer, ne s'amusait pas. Il tremblait, mais trouva la force de se lever, de marcher et de s'agenouiller devant la table du maître des lieux. « Léo Dagan, dit-il avec simplicité, ne me suis-je pas montré le plus valeureux aujourd'hui sur le champ de bataille ?» Certes, reconnut à contre-cœur le monarque qui commençait à comprendre dans quel piège il venait de tomber. « À ce titre, je vous demande la main de votre fille, la princesse Guenièvre. » À ces mots, la damoiselle crut défaillir, mais elle n'en dévoila rien. Un étau broyait son cœur. Ce dernier était étreint par la joie d'entendre ainsi son bel amour se déclarer, et dans le même temps, il était écrasé par la crainte de voir son père éconduire le prétendant. Pour Arthur, le supplice n'était pas moins grand. Il n'aurait pas pu trembler de peur si l'épée marmiadoise s'était abattue sur lui. La mort lui aurait paru un châtiment moins douloureux que d'essuyer un refus de la part de Léo Dagan. Le silence s'installa un long moment. Dans l'assemblée, les rires avaient déserté les gosiers, remplacés par des sourires attendris et amusés. Seul Merlin, dans son coin, affichait un air grave. Lui qui possédait le don de vision savait que l'avenir du royaume se jouait à cet instant. Après avoir déclaré que la bravoure surpassait en valeur la richesse ou les titres, « Comment pourrais-je m'opposer à ta requête ?» reconnut amèrement le vieil homme. La liesse explosa parmi les convives. Tous applaudirent. Ban de Benoïc révéla alors la véritable identité d'Arthur et le visage de Léo Dagan s'éclaira à son tour d'un large sourire. Sa fille allait épouser le roi de Bretagne. Quelle alliance inespérée! Les deux tourtereaux se lançaient des regards intimidés et se sentaient mal à l'aise d'être ainsi au centre de l'attention. Guenièvre ne se réjouit pas particulièrement de la fonction prestigieuse de son bel amour. Que lui importait le titre de reine? Partager sa vie avec cet homme et nul autre, seul cela comptait à ses yeux. Le lendemain, les noces eurent lieu. Merlin était absent, on l'avait vu quitter le château au petit jour, la mine sévère. Il ne voulait pas ternir le bonheur du moment par sa triste présence. Il se savait incapable de jouer la comédie de la joie alors qu'il pressentait tout le malheur qui surviendrait de cette union. Aujourd'hui, c'était le bel épisode de Guenièvre, le bel amour, les aventures du roi Arthur qu'on retrouve sur le livre Contes et légendes du roi Arthur paru chez Locus Solus voilà quelques années, signé par Tristan Pichard et Loïc Trien et ses magnifiques illustrations. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres histoires toujours autour des légendes du roi Arthur.